Ben oui, bien sûr. Merci Magda. Merci.
Merci à vous.
Au revoir.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir. Et notez, chers amis, qu'au repas matin week-end présenté par Alexis de la Fléchère, c'est de 6h à 9h le samedi et le dimanche, donc demain matin, avec les premières informations de la journée, l'actualité éco, politique, la météo, l'immobilier, la gastronomie. Donc, Europe 1, matin, week-end, de 6h à 9h sur Europe 1, Europe 1, la radio libre. On se retrouve demain, dès 22h30, jusqu'à 1h du matin. Merci à Nicolas, à Tristan d'être à mes côtés chaque soir, avec leur dévouement. Vraiment un grand merci à vous, chers auditeurs. À demain, prenez soin de vous, des autres et du monde.
Merci Valérie, rentrez bien, je vous souhaite une bonne nuit. Vous écoutez Europe 1, il est 1h. On débute notre balade nocturne comme hier avec une immersion dans le parcours, dans la vie de l'une des plus grandes stars de la chanson française, Dalida. Et donc on va retrouver aussi Pascal Praud qui nous raconte aujourd'hui le deuxième épisode de cette série de podcasts disponible sur europe1.fr et l'application Europe 1. Bonne nuit à tous.
Destins extraordinaires, Dalida.
C'est une drogue, le public pour moi, il a le visage de l'amour, c'est merveilleux, c'est une communion, c'est un mariage. Il faut absolument que je monte sur une scène et que je chante, sinon il y a quelque chose qui me manque.
Yolanda Gigliotti a toujours eu le sens du spectacle depuis toute petite. En 1954, année où elle devient Miss Égypte à 21 ans, elle quitte le Caire, direction Paris, pour embrasser son destin. À peine 2 ans plus tard, c'est le début d'un tourbillon, lancé par un titre devenu culte, Bambino. Après avoir raconté les derniers jours de Dalida, on va désormais s'intéresser à ses débuts.
Épisode 2, la fille de Choubra et d'Europe numéro 1.
Bonsoir, ici Dalida.
Le Caire, nous sommes le 17 janvier 1933. 3 ans après la naissance de l'aîné Orlando, la famille Gigliotti s'agrandit. Voici une petite fille, Yolanda Cristina. Viendra ensuite Bruno en 1936. Monsieur et Madame Gigliotti s'aiment profondément, même si leur union est issue d'un mariage arrangé. La maman, Giuseppina, fait des travaux de couture. Le papa, Pietro, est premier violon à l'Opéra du Caire. Toute cette famille vit dans une maison de Choubra, un quartier populaire de la capitale égyptienne.
Je suis née exactement au Caire, dans un quartier très populaire, qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui s'appelle Choubra. Et il faut dire que l'Égypte de l'époque, c'était un pays cosmopolite. Il y avait énormément d'étrangers. Donc il y avait beaucoup d'Italiens, beaucoup de Grecs, beaucoup de Français, d'Arméniens, des Anglais.
À seulement 10 mois, Yolanda souffre d'une infection des yeux. Un médecin conseille de lui bander les yeux pendant 40 jours, le temps de la guérir. Mais quand on retire le bandeau des yeux de Yolanda, on s'aperçoit très vite d'une infection aggravée. Résultat, la petite fille a un strabisme dont elle souffrira pendant de très nombreuses années. Plusieurs opérations seront nécessaires pour la soigner, alors en attendant d'aller mieux, elle va devoir porter des lunettes. Mais ça ne l'empêche pas de partager les activités sportives de ses frères. Avec eux, elle aime faire du vélo et jouer au foot. Scolarisée dans une école catholique, elle se révèle être une élève douée et travailleuse. Il faut dire qu'on ne plaisantait pas avec son éducation.
Mon école, vous savez, c'était une école de bonnes sœurs, ça s'appelait Maria Auxiliatrice. À mon grand regret, étant donné qu'on était une famille simple et qu'on n'avait pas beaucoup d'argent en plus, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Je suis allée à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. C'était très sévère, très 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 sévère, mais pas seulement à l'école, aussi dans la famille, parce que je suis née dans une famille d'émigrés italiens du sud de l'Italie, c'est-à-dire la Calabre, qui ne me faisait jamais sortir toute seule, c'est-à-dire à chaque fois que je sortais avec mes 2 frères. C'était mes gardes du corps. Alors pour aller, rien que pour aller au cinéma en matinée, on disait qu'on allait à la messe, par exemple, qu'on allait à l'église et puis on allait au cinéma.
À l'âge de 4 ans, Yolanda doit chanter à la fête de son école. Pétrifiée par le trac, elle chante en playback avec sœur Felicina, qui lui prête sa voix depuis les coulisses. Malgré ce petit stress, c'est déjà une graine de star en pleine éclosion.
Pietro De Grazie.
Sì, sono io.
You're under arrest.
Io non ho fatto niente.
Shut your mouth. Let's go.
Yolanda!
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 Yolanda n'a que 6 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Son père est interné dans le camp de Fayed, près du Caire. En 1944, il en revient avec des migraines terribles, mais surtout il devient psychologiquement instable et violent. Cela traumatise la jeune fille, elle va se mettre à haïr son père, qui meurt l'année suivante.
Vous savez, quand j'étais petite, je voulais que mon père meure. Quand il est revenu du camp, il était si blessé, moralement, physiquement. Il frappait mes frères et moi aussi. Mais c'est quand il frappait ma mère, c'est là que je voulais qu'il meure. Et il est mort. Je me sentais coupable, coupable.
Vers l'âge de 13 ans, Yolanda commence à s'intéresser à son apparence. Elle voit son corps changer et devenir celui d'une jeune femme. Elle finit même par se débarrasser de ses affreuses lunettes. En 1951, à peine majeure, son amie Miranda les inscrit toutes les deux au concours de Miss Ondine. Elle participe au concours sans en avertir sa famille. Les jeunes filles doivent défiler en maillot de bain. Grande gagnante du concours, les photos sont publiées dans le journal du lendemain et c'est la catastrophe. La si puritaine Yolanda vient de choquer tout son quartier. Sa mère et son frère aîné auront beau vouloir la punir, ils ne peuvent pas aller contre la nature. Yolanda est bel et bien en train de devenir une femme. C'est à ce moment-là aussi qu'elle fait son entrée dans le monde du travail. La voici secrétaire, Paris, New York, Londres, Rome. Les noms des villes du monde entier où elle doit expédier des plis la font rêver. Un jour, je partirai, se dit-elle.
Put the blame on me, boy. Put the blame on me.
Dans ce premier emploi, Yolanda n'attend pas longtemps avant de faire le show. Un jour, son patron, M. Matouk, rentre plus tôt d'un rendez-vous. Il la surprend, en train d'imiter Rita Hayworth dans le film Gilda devant ses collègues. Yolanda avait même transformé l'intégralité du bureau en nightclub.
Khalas, cette fois c'en est trop! Vous déconcentrez tout le monde et vous semez la zizanie! Vos talents seraient mieux appréciés ailleurs. Je vous conseille de démissionner et de vous consacrer, je ne sais pas moi, à une carrière cinématographique.
Yolanda ayant déjà entamé sa carrière de mannequin en parallèle, elle n'est pas très anxieuse au moment d'être mise à la porte. Ce métier de mannequin, elle l'a appris chez Donna, une maison de couture égyptienne. Avant même sa voix, son principal atout, c'est son corps. Chez Donna, la jeune femme apprend à marcher, à sourire, à s'habiller, à paraître à l'aise en toutes circonstances. Elle développe aussi son style, menton baissé et regard oblique pour que l'on ne remarque pas son défaut aux yeux. En 1954, Yolanda décide de se présenter au concours de Miss Égypte. Lors du défilé, elle porte une robe du soir. Mais c'est le deuxième défilé qui fait toute la différence, celui en maillot de bain. Alors que toutes les autres candidates portent des maillots de bain une pièce, Yolanda défile en bikini, un deux pièces, à l'imprimé panthère, avec une cape assortie. Quelle audace! Mais c'est bien grâce à lui que Yolanda remporte le premier prix. Elle est élue Miss Égypte. Elle prend alors le pseudonyme de Dalila, en référence à la figure biblique, celle d'une femme aussi forte qu'un homme. Cette petite notoriété lui ouvre les portes du cinéma, mais les rôles qu'on lui propose sont sans grand intérêt. Cependant, un réalisateur français la repère. Marc de Gatine n'est pas le réalisateur du siècle, mais l'occasion est trop belle. Dalila quitte le Caire pour Paris le jour de Noël 1954. Elle a 21 ans, une valise vide, mais la tête pleine de rêves. À Paris, Marc de Gatine, avec l'aide de l'un de ses amis, le colonel Vidal, s'occupe de chaperonner Dalila. Elle vit d'abord rue de Ponthieu, dans le 8e arrondissement. Le colonel Vidal est censé faire décoller sa carrière, mais Pour le moment, elle vit dans une petite chambre de bonne.
Il y a eu des moments dans ta vie où tu étais, disons, fauché ou avec des problèmes d'argent,
oui. D'ailleurs, j'ai passé toute mon enfance très, très fauché. Enfin, on était des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Ensuite, quand je suis arrivée à Paris...
Depuis que tu es artiste, disons.
Mais depuis que je suis artiste, disons que je suis arrivée en France, j'avais en poche 20 000 anciens francs.
Ouais.
Il y a 20 ans. Mmh. Et que j'ai gagné, à la Villa d'Est, quand j'ai chanté simplement 1000 francs anciens par soir, ensuite il m'a augmenté, et que... Je suis restée une bonne période sans avoir d'argent, mais finalement c'est pas tellement grave à ce moment-là, parce que quand on est jeune, c'est pas pareil, on a l'espoir, on sait qu'on a des choses à faire dans la vie, c'est pas pareil.
Dalila déménage quelques mois plus tard, mais pour aller dans une autre chambre de bonne, une chambre plus petite encore. Cette fois-ci, rue Jean Mermoz, toujours dans le quartier des Champs-Élysées. Pour multiplier ses chances de réussir, Dalila décide de se tourner vers la chanson. Le colonel Vidal lui fait rencontrer des professeurs de chant. C'est ainsi qu'elle rencontre Roland Berger. Ce professeur s'attache à elle. De son côté, Dalila y retrouve la figure de son père. C'est Roland Berger qui va lui organiser des tours de chant au Drador, un club chic des Champs-Élysées. Dalila y est repérée par le journaliste Jacques Paoli. Membre de la rédaction de cette nouvelle radio, Europe numéro 1, Jacques Paoli est aussi propriétaire d'un autre club de l'avenue, la Villa d'Est.
La Villa d'Est, elle a eu beaucoup de succès puisqu'elle est restée un an. Et c'est là que Bronco Trix l'a découverte. Et donc, elle a toujours chanté sur scène en montant marche par marche.
C'est à la Villa d'Est que Dalila fait une rencontre déterminante. Celle de l'écrivain et scénariste Albert Machard.
Tu t'appelles Dalila. Mais avec un nom comme ça, tu auras toujours l'ombre de Samson derrière toi. Suis mon conseil, ma chère. Change la dernière consonne par un D. D comme Dieu le Père.
Dalida est née. La tournée des cabarets dure un an et demi, c'est le début du succès. En même temps qu'elle se cherche une maison de disques, Jacques Paoli parle d'elle à Bruno Cocatrix. Ce dernier vient de reprendre l'Olympia, un ancien cinéma qu'il veut transformer en music hall. Pour son projet, Bruno Cocatrix est à la recherche de nouveaux talents. Pour ça, il crée sur Europe numéro 1 une émission intitulée « Les numéros 1 de demain ». Il propose à Dalida d'interpréter une chanson dans l'émission. Son passage est prévu le 9 avril 1956. En coulisses, Dalida est aussi blanche que la robe qu'elle porte. Pour la seule et unique chanson qu'elle doit interpréter, elle a choisi « Étrangère au paradis » de Gloria Lasso.
Le danger d'un zem.
Dalida sent bien que son avenir se joue ce soir-là, dans cette salle. Dans cette salle où se trouvent, notamment, Eddie Barclay et Lucien Maurice. Lucien Maurice, 26 ans et depuis quelques semaines, le directeur artistique d'Europe numéro 1. Eddie Barclay, 35 ans, et quant à lui un jeune homme d'affaires qui veut fabriquer des disques et lancer un nouveau format, le 45 tours.
Un jour avec mon ami Lucien Maurice... On était dans un bar, qui est le bar qui est juste derrière l'Olympia. Et moi, je voulais aller voir un espèce de crochet qui avait lieu à l'Olympia, qui avait été organisé par Bruno Cocatrix, avec des nouveaux, des nouvelles têtes, des nouveaux jeunes. Et Lucien, lui, n'avait pas du tout envie de ça. Il avait envie d'aller au cinéma voir un film américain. Comme on était en train de jouer au dé, j'ai dit à Lucien, écoute... On va faire l'histoire au dé, et celui qui gagne au dé ira là où il voudra. Heureusement, j'ai gagné cette partie. Je dis à Lucien, ton film tu le verras plus tard, moi, nous allons à l'Olympia voir ce crochet.
Pendant le spectacle, Lucien Maurice et Eddie Barclay s'ennuient à mourir. Ils sont même sur le point de quitter la salle quand une jeune femme, qu'ils ne connaissent pas, fait son entrée sur scène.
À vous de décider si elle doit se faire un nom avec son prénom. Mademoiselle Dalida.
Et comme à l'époque, je cherchais quelqu'un pour mettre en face de Gloria Lasso, qui avait un accent espagnol, j'avais besoin de voir une voix étrangère, avec un accent du moins, et qui ne soit pas espagnol. Donc j'avais dit, si on trouve quelqu'un qui a un accent italien ou grec ou un autre accent, on va l'engager pour autant que cette fille ait une allure. Et on tombe sur une fille qui s'appelle Yolanda Gigliotti, qui chante une chanson horriblement mal, comme le Stranger in Paradise, exactement, étranger au paradis. Et je dis à Lucien, tiens, celle-là, il faut la prendre.
Lucien Maurice et Eddie Barclay sont conquis. Ils courent vers les coulisses pour lui tendre leur carte de visite. Lucien Maurice lui donne même rendez-vous le lendemain, à Europe numéro 1, en rue François 1er. Dalida n'en revient pas. À son arrivée, dans les bureaux de la radio, Dalida et lui se demandent s'ils ne sont pas en train de vivre un coup de foudre. La jeune chanteuse interprète face à lui une chanson a cappella.
Vierge de la mer, toi qui me tends les bras, sainte voile d'or, je crois encore en toi. Sera clémente pour moi.
On retravaille cette chanson. Et quand tu seras prête, j'appellerai Eddie Barclay, lui lance Lucien Maurice. Dalida a 20 ans et Lucien 7 de plus. Il est marié, père d'une petite fille, mène une existence bien rangée, malgré le milieu professionnel dans lequel il évolue.
C'est lui qui m'a conseillé et guidé dans ma carrière. Seul à Paris, ayant peur de tout et de tout le monde, lui seul a su m'inspirer confiance. Je suis aveuglement tous ses conseils.
Dalida travaille d'arrache-pied et finit par présenter sa chanson devant Eddie Barclay, qui lui propose un contrat d'un an. Les bonnes nouvelles s'enchaînent, car de son côté, Bruno Cocatrix lui propose de faire des tournées dans des casinos. De ces trois hommes-là, Dalida dira bientôt « Bruno Cocatrix, c'est mon succès. Eddie Barclay, c'est mon argent. » Lucien Maurice, c'est mon cœur.
La carrière de Dalida, c'est une réussite à trois. Il y a Lucien Maurice, ça va de soi. C'est son directeur artistique et ce sera ensuite son mari, le seul mari qu'elle a eu. Ensuite, son producteur discographique qui avait un flair pour les chansons extraordinaires, Eddie Barclay. Et puis, Bruno Cocatrix qui l'a amené à l'Olympia, dont le numéro un de demain, et qui va lui ouvrir la porte. Elle sera l'anglaise à l'Olympia d'Aznavour. Ensuite, l'américaine de Gilbert Bécaud. Et ensuite, vedette elle-même. Donc, ces trois hommes, ils ont beaucoup compté pour Dalida.
Pour Dalida, il est grand temps d'enregistrer un premier disque. Lucien Maurice a besoin d'une vedette pour tester la technique publicitaire qu'il a inventée, le matraquage radio. Eddie Barclay a lui aussi besoin d'une vedette pour lancer le 45 tours.
Elle a été souvent la première des premières fois. Et Eddie Barclay, il venait d'amener le 45 tours en France. Et pour lancer ça, il cherchait un nouveau talent. Il voulait une nouvelle tête. Et une tête, si c'est possible, avec la voix qui va de pair, parce qu'il avait eu une idée, quand il avait vu Dalida, de mettre la pochette chez les tellement belles que les gens vont acheter le disque, mais rien que pour ça, pour l'avoir en photo.
Sur son premier disque, Dalida chante Madonna.
Vierge de la mer, prends garde à mon chagrin, si l'orage est plus fort que ton regard divin, au village on dira que tu n'es pas notre mère, que tu n'es que statue de bois.
La chanteuse égyptienne met alors à la mode la robe courte et elle lâche ses cheveux. C'est le début des fameuses choucroutes. Dalida épaissit aussi le trait de rimmel sur sa paupière. Face au naturel de la star du moment, Brigitte Bardot, Dalida invente un nouveau genre. C'est à ce moment-là qu'elle est diffusée pour la première fois à la radio. Elle ne se reconnaît pas. Est-ce bien elle que l'on entend ? Mais la fameuse technique du matraquage créée par Lucien Maurice, et qui consiste à diffuser jusqu'à 10 fois par jour le même disque, n'a pas encore été mise en pratique. Le directeur artistique d'Europe numéro 1 est content de la chanson Madonna, mais ce n'est pas encore la chanson.
Elle avait enregistré 2 45 tours, un derrière l'autre, mais ni Lucien, ni Eddie Barclay n'y croyaient pas dans les titres. Ils ont fait ça pour simplement pour qu'elle prenne l'habitude d'être en studio.
Dalida et Lucien Maurice passent beaucoup de temps ensemble. Dalida sent de plus en plus que leur relation dépasse le stade professionnel. Il lui parle de lui. Ils ont des conversations téléphoniques interminables. Ils se regardent longuement.
Lucien Maurice a fait énormément pour moi. C'est lui qui m'a découvert, il m'a donné des conseils et tout. Et je pense que sans lui, ce n'est pas que je ne serais pas devenue vedette. Je pense que je serais devenue vedette quand même, mais ça aurait mis un peu plus de temps.
Mais s'il ne se déclare pas encore officiellement, il lui fait un cadeau inimaginable. Ce cadeau, c'est une bombe. Ce cadeau, c'est enfin la chanson. Ce cadeau, c'est Bambino.
On va tous chanter ensemble.
Et gratta, gratta sul ton mandolino, mon petit bambino. La musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux.
Ce sont troisième 45 tours, Bambino, et ça vraiment l'a propulsé vraiment en France et dans le monde entier. Et c'est un peu Lucien Maurice qui avait trouvé la chanson qui n'était pas au départ destinée à Dalida. L'éditeur l'avait amenée pour Gloria Lasso, qui était la grande rivale à l'époque. Dalida était la rivale parce qu'elle existait un an avant. Ça me fait sourire parce que et à l'époque, Gloria, elle venait à peine vraiment de prendre son envol et puis Dalida est arrivée. Sans vouloir, elle l'a stoppée.
À peine enregistré, Bambino est littéralement lâché sur les ondes d'Europe numéro 1. Le titre est matraqué. La réaction du public est immédiate.
Vous savez, quand on parle de Dalida ou d'Europe numéro 1, on ne peut pas les dissocier. Bien sûr qu'elle aurait réussi peut-être sans Europe numéro 1, mais Europe numéro 1 était très importante, car Europe numéro 1 a lancé Dalida. Ils ont commencé leur carrière ensemble, en même temps. En 56, Dalida va éclater, et ça faisait à peine un an qu'elle existait, Europe numéro 1. D'ailleurs, elles se sont entraînées les deux.
Avec tes cheveux si blancs,
tu as l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les gamins.
Bambino reste dans les 20 premières places du hit parade pendant une année entière. Dalida devient la première femme disque d'or. Ce titre est même spécialement créé pour elle. C'est le début d'une immense carrière, celle d'une ancienne Miss Égypte, devenue la reine des jukebox et une référence pour plusieurs générations. La légende de Dalida est lancée.
Destin extraordinaire, Dalida, raconté par Pascal Pro. Vous venez d'écouter la deuxième partie de ce podcast que vous retrouverez dans son intégralité, évidemment, sur votre plateforme d'écoute préférée, Europe1.fr par exemple. Et puis, on vous donne surtout rendez-vous la nuit prochaine pour la suite avec la troisième partie. Ce sera à 1h sur Europe 1, juste après la libre antenne. Au paradis et Dalida. Au paradis est aussi le titre de la chanson de Gérald Palmas que l'on va écouter maintenant, avant de retrouver juste après Sophie Davant, qui va nous raconter une histoire d'amour pas comme les autres, comme elle le fait tous les week-ends de 16h à 17h. Retour aujourd'hui sur le coup de foudre entre Freddie Mercury et Mary Austin. Oui, vous avez bien entendu, Freddie et Marie. De leur rencontre en 1969 jusqu'au décès du chanteur en 1991, une histoire puissante où amour et amitié ne se sont jamais vraiment quittés. et que je vous invite donc à redécouvrir ou à découvrir juste après cette chanson de Gérald de Palmas. Titre de 2004 signé De Palmas au paradis. Bienvenue à vous qui nous rejoignez peut-être à l'instant sur Europe 1. On va parler d'amour à présent avec Sophie Davant, puisque tous les samedis et dimanches de 16h à 17h, elle nous raconte des histoires d'amour extraordinaires de personnes célèbres ou d'anonymes. Et que la nuit venue, eh bien, on vous offre la séance de rattrapage. Bonne nuit à tous. Cet après-midi, nous allons nous intéresser à un couple pas banal, celui formé par Freddie Mercury, le leader charismatique du groupe Queen, et celle qu'on surnommait l'amour de sa vie, Mary Austin. Une relation qui vous surprendra peut-être, car s'il est vrai que Freddie Mercury est aujourd'hui une icône queer incontestée, il a aussi été avec une femme dont il est resté très proche jusqu'à sa disparition en novembre 1991. Alors prenez place pour écouter cette histoire touchante et extraordinaire qui vous fera découvrir peut-être une autre facette du leader de Queen. Et puis tout à l'heure, j'accueillerai dans ce studio David Rassan, journaliste et grand spécialiste de Queen en France. Il est notamment l'auteur d'un ouvrage de plus de 800 pages sur le groupe, simplement intitulé Queen, publié aux éditions Le Mot et le Reste. Mais d'abord, place au récit.
Les histoires d'amour extraordinaires.
Sophie Davant.
Le récit.
Freddie Mercury est zoroastrien. C'est sa religion. C'est l'une des premières religions monothéistes de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, peu de personnes la pratiquent encore. On compte 120 000 adeptes à travers le monde. Freddie Mercury, de son vrai nom, Farrokh Boulsara, tient ses croyances de ses parents d'origine perse. Il a été converti à Bombay à l'âge de 8 ans. Il y a peu d'obligations dans cette religion. On peut imaginer que cela arrangerait peut-être le leader du groupe Queen. Les excès étaient tolérés. Ça tombe bien, Freddie adorait le champagne et aussi parfois la cocaïne. Par contre, dans le zoroastrisme, la décomposition du corps est considérée comme l'œuvre du démon. Dès lors, le 27 novembre 1991 à Londres, Freddie Mercury, selon ses volontés, est incinéré 3 jours après son décès. Pendant la crémation, Mary Austin est là, la femme, l'amoureuse, l'amie, la confidente, le soutien de toute une vie. Les parents du chanteur sont également présents, ainsi que les 3 membres du groupe Queen, l'impresario de la star et Elton John. Une courte cérémonie, étrange pour nos yeux d'occidentaux, s'achève, faite de chants à la gloire du dieu Mazda. Les religieux ont de longues capes blanches. À la toute fin, devant les proches de Mercury, le cercueil se retire dans son ultime foyer et finit par se consumer. Pendant 2 ans, après ce jour, la femme de la vie de Freddie Mercury sera la propriétaire de l'urne contenant les cendres de son adoré. Elle lui a fait une promesse. Elle va la tenir, disperser la poussière à un endroit que seule elle et lui connaissent. Aujourd'hui encore, âgée de 74 ans, Mary vit en toute discrétion. Elle est la seule à savoir où reposent les cendres du chanteur aux 300 millions de disques vendus. Elle n'a jamais laissé un autre homme jouer un rôle dans sa vie et elle a toujours refusé de se marier. Freddie Mercury, lui, n'avait jamais coupé les ponts avec Mary, une femme, lui qui, de son vivant, était l'amant de nombreux hommes. Mary est avec la sœur du chanteur, la gardienne du temple de Mercury. C'est la dernière mission de sa vie, une mission sacrée. Freddie ne voulait pas que quiconque essaie d'exhumer les cendres, comme cela s'est produit avec d'autres personnalités. Il voulait que cela reste un secret, et cela le restera. En 1969, Mary a 19 ans, elle a déjà décroché un poste dans les relations publiques d'une importante boutique de mode à Kensington. Ce qui saute aux yeux de Mary quand elle rencontre Freddie, c'est son assurance.
Et pourtant, pour le moment, il n'est personne, pas même une petite vedette. Concrètement, il vient de terminer ses études et se fait un peu d'argent dans la vente de vêtements. Freddy a un port altier, un regard direct, le verbe haut. Bref, il est tout ce qu'elle n'est pas, elle qui manque de confiance. Mary refuse absolument de tomber sous son charme. La jeune Mary va décrocher la timbale. Un rendez-vous contre toute logique, non pas avec Freddie Mercury, mais avec Brian May, le guitariste du groupe, qu'ils viennent à peine de monter. Finalement, ce n'est que 5 mois plus tard que Monsieur Mercury lui propose à son tour de se fréquenter. Mary n'en revient pas. Elle est issue de la classe ouvrière, d'un naturel discret. Elle a été élevée par un papa coupeur de papier peint et une maman femme de ménage, tous les deux malentendants. C'est ce naturel et cette simplicité qui fait mouche auprès de Freddy. Il a 24 ans. 5 mois après, ils emménagent ensemble. Mercury est un homme pressé. Noël 1973, c'est le moment des cadeaux entre les tourtereaux. Freddy offre à Mary une boîte. Interloquée, elle l'ouvre, dedans une autre boîte. Et dans cette boîte, une autre boîte. Le jeu des poupées russes s'achève avec un écrin final contenant une bague en jade. Mary est sans voix, elle n'ose espérer ce qui s'offre à elle. « Sur quelle main dois-je mettre cette bague ?» demande la jolie blonde. « À la main gauche, sur ton annulaire, parce que... est-ce que tu veux m'épouser ?» Mary, dans un souffle murmuré, répond par l'affirmative. Pendant plusieurs années, c'est elle qui fait bouillir la marmite, qui ramène l'argent à la maison. Ils étaient toujours là, l'un pour l'autre. Ils avaient le lien que partagent ceux qui sont ensemble pour toujours, disent d'eux leurs amis de cette époque. L'année de la demande en mariage de Freddy à Mary est la même année que la sortie du tout premier album du groupe Queen. Il s'appelle Queen One. Il faut toujours un brouillon avant d'atteindre l'excellence. L'album n'arrive pas à apparaître dans les classements britanniques. Pour résumer, on dirait une pâle copie de Led Zeppelin. Mais la gloire ne va pas tarder à toquer à la porte de Freddie Mercury. Mais pour le moment, elle reste sur le palier. Cela fait 4 ans que Freddie et Mary sont ensemble. Et alors que le succès commence à poindre pour le chanteur, le couple Freddie-Mary est de moins en moins scintillant. Mary se pose des questions. Elle n'ose, pour le moment, pas en parler à son amoureux. Sa seule certitude pour l'instant, c'est qu'il rentre de plus en plus tard à la maison. Freddie avec Mary est pourtant tout ce qu'il y a de plus honnête. Il lui dit, à elle et à ses amis, « Je veux Mary, je ne veux personne d'autre ». Mais il y a quelque chose qui cloche. Mary en a l'intime conviction. La suite lui donnera raison.
Europe 1,
16h-17h.
Les histoires d'amour extraordinaires.
Hey girl, you know.
Vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est un peu ça les débuts de l'histoire entre Freddie Mercury et Mary Austin. Vivre avec un artiste n'est pas une sinécure. Les rentrées d'argent sont maigres, pour ne pas dire nulles, surtout concernant la future star planétaire. Ça ne va pas les empêcher de vivre heureux, ensemble, au début, soudés et épanouis dans un petit studio loué 10 pounds la semaine, non loin du marché de Kensington. en plein Londres. Les débuts de l'idylle sont paradisiaques. Mary est sous le charme charismatique du moustachu. Il ne ressemblait à personne. Il était unique. Freddy est lui aussi aux anges dans sa relation. Il a trouvé sa moitié. Pour le moment, Freddy se produit dans de petites salles. Certains soirs, le public est très clairsemé. Mais pour le chanteur, se produire sur scène, c'est sacré. La future star devient de plus en plus concentrée dans ses prestations et surtout, il prend de plus en plus au sérieux son apparence scénique. Mercury met des heures à ajuster son pantalon de satin, à peaufiner son maquillage et choisir ses chaussures. Le succès viendra, Freddy le sait. Il l'appelle de toutes ses forces. « Je ne serai pas connue, je serai une légende ». On pourrait croire que Mary Austin a été une fan, une groupie, prête à suivre Freddy jusqu'en enfer. Eh bien, pas du tout, au contraire. Dans leur relation, c'est plutôt Mercury qui est accro, dépendant de sa peur de l'abandon. Freddy va trouver avec Mary un socle, quelqu'un sur qui s'appuyer, une personne de confiance qui sera toujours là pour lui donner de bons conseils. Pour le moment, elle est là, à ses côtés, sur tous les fronts. Elle est même adorée par les parents du chanteur. Mary est pour Jer et Bomi Bulsara, le père et la mère de Freddy, la promesse d'un avenir apaisé. Il voit bien qu'elle est la seule à pouvoir maîtriser les démons de leur fils. Avec elle, il pourrait, pourquoi pas, devenir grand-parent. D'ailleurs, Mary et Freddy évoquent eux-mêmes ce projet de façon concrète. Nous parlions d'avoir des enfants, Freddy le disait. Il disait avoir envie d'un foyer. Le lien entre Freddy et Mary est tellement fort et tellement essentiel que même lorsque ces deux-là ne seront plus officiellement ensemble, ils continueront à se voir le dimanche. Mais pour le moment, l'obsession de Freddy, c'est le succès, la gloire, son métier de star. D'ailleurs, les sacrifices pour parvenir à percer et la vie de saltimbanque qui vont avec inquiètent aussi les parents de Freddy. Mais un peu moins quand ils savent que Mary est près de lui. Décidément, elle est formidable, cette Mary. Le problème, c'est que, bien qu'en couple, ces deux-là sont de moins en moins réunis, surtout passé une certaine heure. Mary croit d'abord à une passade. Elle pense à l'existence d'une maîtresse dans le petit cercle de Queen. Il doit très certainement la voir après ses séances d'enregistrement, pense-t-elle. Mais après s'être penché un peu plus sur la question en général et sur l'entourage de son fiancé, une évidence s'impose. Toutes les personnes qui lui tournent autour sont des hommes. Avec le temps, Freddy devient également particulièrement taciturne avec Mary, comme s'il y avait un malaise. Un secret, comme si dès que le sujet intime arrivait, un mal-être prenait le dessus. Freddy a toujours eu des tendances paranoïaques, des comportements cyclotimiques, mais là, quelque chose coince. Freddy nie, pour le moment. Leurs proches sont également sans ambiguïté. Freddy et Mary forment un couple, un vrai couple. Ils diront à leur sujet: à cette époque, c'était peine perdue de vouloir s'immiscer entre eux. Ils avaient un lien particulier, le même qu'ont les personnes qui sont ensemble depuis toujours et pour toujours. Dans l'intimité pourtant, pour ces deux-là, les choses sont un tout petit peu plus compliquées. Mary le sent, Mary le devine et elle ne veut pas de mensonges. leur relation vaut mieux que ça. C'est comme si Freddy n'était pas entièrement satisfait et épanoui. Comme si une corde au cou l'empêchait de vraiment être celui qu'il était. L'amour va les forcer à avoir une discussion franche et honnête. Une de ces discussions dont on ne sort pas indemne. Les aveux, les révélations vont tuer un couple dans sa forme la plus classique. Mais elle va les souder au-delà de l'amour, au-delà de la mort. La révélation que Freddy va faire, Mary s'y attend. Il lui avoue qu'il a une attirance croissante pour les hommes et que d'ailleurs, il a eu quelques relations secrètes. Freddy le confesse. Il pense être bisexuel. Mary va le reprendre. « Non, Freddy, tu es gay. » Dès qu'il me l'a dit, raconte Mary, je l'ai soutenu à 100%, parce qu'être gay, c'était son identité, et c'était tellement formidable de le sentir épanoui. C'est difficile d'avouer les choses, mais cet aveu va le soulager considérablement. Que Mercury raconte ses penchants à sa femme, c'est moralement louable, sincèrement honnête, mais c'est surtout avec le recul une façon de lui avoir sauvé la vie. Mary racontera des années plus tard, « Si Freddy n'avait pas été un homme aussi décent, s'il ne m'avait rien dit, je ne serais pas là aujourd'hui. » S'il avait vécu sa bisexualité sans m'en parler, j'aurais tout simplement attrapé le sida et j'en serais morte. Vu comme ça, en effet, l'aveu du chanteur prend une toute autre ampleur. La vérité, en tout cas, a été dite. Les amoureux, car ils le sont toujours, vont maintenant devoir en tirer les conséquences. La vie que Freddy veut mener est en totale contradiction avec celle que lui proposait jusqu'alors Mary. Alors que faire ? Le problème reste posé. Comment concilier sa nature profonde et ses sentiments ? C'est tout le dilemme.
Les histoires d'amour extraordinaires.
Sophie Davant.
Le récit.
Mary Austin et Freddie Mercury, c'est 22 ans d'amour. Jusqu'au dernier soupir de la star en 1991, depuis leur première rencontre en 1969. Le couple a connu les vaches maigres, l'envol, la consécration, puis le terrible drame de la maladie. Si l'amour a été si fort entre eux, si leur lien ne s'est jamais distendu, c'est peut-être d'abord parce que tout a été très progressif entre eux. D'abord une relation avortée avec Brian May, le guitariste de Queen, puis des visites insistantes dans la boutique de Mary. Au bout de 3 mois, ce sont des fleurs pour la supplier d'accepter un dîner en tête-à-tête avec elle. So romantic. On peut trouver ça étonnant de la part d'une future rock star. Cette technique de drague est un peu hors du temps, hors des modes. Mais il est comme ça, Mercury. Quand il s'agit d'amour, il est très décalé. Cet état d'esprit particulier lui inspirera d'ailleurs une chanson quelques années plus tard. Good Old Fashioned Lover Boy. Dans cette balade qui s'excite un peu au milieu de la chanson, Freddy est désarmant de sincérité. On pourrait croire à de l'ironie, mais non, il l'affirme et le chante bien haut. Je peux tamiser les lumières et te chanter des chansons mélancoliques. Je peux te faire la sérénade et jouer doucement avec des cordes sensibles. Être ton Valentin, rien que pour toi. Comment ne pas craquer, même si on n'est pas forcément porté sur les hommes à moustache ? De son propre aveu, alors que Mary et Freddy commencent une relation, elle va mettre 3 ans à être véritablement amoureuse de Freddy. Seulement voilà, après 6 ans de vie commune, tout s'écroule. Un soir où ils sont tous les deux réunis, elle questionne timidement son homme. Est-ce qu'il est temps d'acheter la robe ? Une façon détournée de tenter de savoir si les promesses d'une éventuelle noce sont toujours d'actualité. La réponse est sans appel de la part du chanteur. Non. Mary prend son destin en pleine face, comme une porte qui se claque et se referme. Elle ne sera pas Madame Mercury. Jamais. Freddy Mercury est homosexuel, point. J'étais un peu naïve, j'avais mis du temps à comprendre. À l'admettre aussi, peut-être, Mary.
Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back.
En 1985, le chanteur reviendra dans une interview sur ce moment de bascule. La seule amie que j'ai, c'est Mary. Je ne veux personne d'autre. Du côté de Mary, c'est le soulagement. Une fois le sujet abordé, Fred est redevenu celui que j'ai connu au début. Le couple se conjugue de nouveau avec amour, dévotion et confiance. Freddy n'est pas sans souffrir de cette séparation qui n'en est pas une. Une des chansons peut-être la plus bouleversante du répertoire de Queen est Love of My Life, l'amour de ma vie. Il est forcément question de Mary. L'amour de sa vie, l'amour de toute une vie, celui qui peut s'exprimer au-delà des élans charnels. Freddy et Mary sont liés l'un à l'autre, mais la star veut maintenant vivre son autre vie, pleinement, profondément. La musique de Mercury est baroque, au sens excessif et épuré de toute norme. L'homosexualité du leader de Queen dépasse la sexualité. C'est pour lui un art de vivre, une quête de plaisir, la recherche sans fin de la fête et de l'exubérance. Un état d'esprit bien éloigné de la vie maritale envisagée avec Mary. La vie ne vaut la peine d'être vécue que dans ses excès. Ce mantra aurait pu être de Freddie Mercury, mais non, la citation est du marquis de Sade. Le chanteur ne se cache plus, telle une personne qui s'est longtemps retenue, il devient boulimique de rencontres. Los Angeles, San Francisco, New York, mais aussi Munich, son terrain de jeu, de chasse et planétaire. Mary va le laisser vivre sa vie, peut-être en espérant qu'il revienne un jour au bercail, peut-être en se détestant elle-même de s'oublier. Elle devient en tout cas définitivement une épouse sans mari, une épouse sans mariage. Petit à petit, les choses vont se réajuster plus équitablement, les rôles se redéfinir. Mary devient l'amie, la confidente sûre, et quand elle refera sa vie, le parrain des enfants de Mary sera inévitablement Freddy. Mais au fait, comment Freddy Mercury a fait pour être aussi parfait au niveau de son look ? Mary encore. Avant, le chanteur optait pour un t-shirt et un jean. depuis qu'il assume tout, c'est plutôt satin noir et débardeur près du corps. Mary le conseille. Mercury veut avoir Mary toujours à portée de main, pas loin en tout cas. Il lui achète donc un appartement dans le quartier où il habite. Elle fait la connaissance de ses amants, ceux qui passent et ceux qui durent un peu plus. Tous feront la connaissance de Mary. Freddy a toujours dit concernant Mary, une fois leur relation apaisée, « Tous mes amants m'ont demandé pourquoi ils ne pouvaient pas remplacer Mary. Mais c'est tout simplement impossible. Mary est la seule amie que je connaisse et je ne veux personne d'autre. Pour moi, elle était ma conjointe de fait. Pour moi, c'était un mariage. » Vous l'avez compris, rien ne séparera Mary et Freddy. Rien, si ce n'est le dernier voyage.
Les histoires d'amour extraordinaires.
Sophie Davant.
Le récit.
Naked and ivory, but when your finger points so savagely, is anybody there to believe in me, to hear my plea?
Mercury n'a jamais cessé de son vivant de considérer Mary comme sa compagne de fait. Son testament parle pour lui. Il lui lègue une grande partie de sa fortune ainsi que sa demeure de Londres. Une phrase résume le destin de ces deux êtres, contrariés par une sexualité qui rendait cet amour impossible à vivre pleinement. Freddy écrit « Si les choses avaient été différentes, tu aurais été ma femme ». Toute leur vie, Mary et Freddy n'ont vécu ensemble en tout et pour tout sous le même toit que 6 ans. Même si leur relation échappait aux conventions et si leurs sentiments ne pouvaient être rangés dans des cases, c'est un amour inconditionnel et indestructible qui les a unis. Le chanteur contracte la maladie du sida en 1987. À cette époque, il n'y a aucune chance de guérison. Freddy est bien entouré, Mary est là, mais aussi Jim Hutton, un moustachu rencontré quelques années auparavant. Rapidement, Jim et Freddy emménagent ensemble, mais Mercury n'envisage pas un seul instant d'officialiser leur amour. Pudeur ou calcul marketing, il n'est à aucun moment question d'un coming out. Alors, Jim est officiellement son coiffeur, ou son jardinier. Dans les deux cas, sa paire de ciseaux n'est jamais loin. Jim finira infirmier, car il va falloir s'occuper des traitements de Freddy. Quand Mercury apprend qu'il est atteint par le VIH, il le dit à son compagnon, puis n'en parleront plus jamais. Quand le sujet était abordé à la télévision, on prenait la télécommande et on éteignait. La chape de plomb est tellement lourde dans le couple que quand Jim apprend que lui aussi est touché à son tour, il ne le confie pas à Freddy, qui vit ses derniers jours de manière éprouvante. Un 23 novembre 1991, dans un communiqué, le leader de Queen se livre entièrement à son public, dans un dernier souffle de sincérité. J'ai gardé cette information privée jusqu'à ce jour. Le temps est venu pour mes amis et mes fans du monde entier de connaître la vérité. Ma vie privée a toujours été spéciale pour moi. Cette règle se poursuivra. Il confirme ce que tout le monde savait déjà, il a le sida. Never complain, never explain, ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer, comme disait la reine Elisabeth. Le leader de Queen s'est approprié l'adage. Il n'a jamais donné ce plaisir aux tabloïds qui ont 1000 fois annoncé sa mort. Un rapport à la presse à scandale qui n'est pas sans rappeler Lady Di. D'ailleurs, Freddy et elle iront faire quelques virées en boîte de nuit. La légende veut que l'ex-épouse du prince Charles se soit rendue en discothèque, grimée en homme, avec une petite fausse moustache. Et hop, le tour était joué. À présent, la fête est finie. La fin est programmée. Jusqu'au bout, Mary Austin sera là. Jusqu'au bout, elle va le veiller, jour et nuit, qu'il dorme ou non.